Voilà, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc nous vivrons la quatrième et dernière session de ce colloque avec après trois demi-journées déjà très riches. Et il restait une dimension qui a traversé en filigrane l'ensemble des interventions que nous avons eu le loisir d'écouter jusqu'ici, et qui est la dimension de l'autorité religieuse et son articulation avec la régulation des organisations partisanes. Donc je propose de commencer tout de suite la présentation, que nous commencions tout de suite à écouter les présentations. La discussion sera proposée par Jean-Paul Willem, ici présent, que nous remercions de nous avoir rejoints, directeur d'études à l'EPHE, l'École pratique des hautes études. Et je vous présente donc ici Pierre Prudhomme de l'Institut des mondes africains, docteur en sociologie, chercheur à l'IMAF, sur l'islam en politique, un signifiant flottant, Ernesto Laclau au Mali, ou les limites du religion et politique.
Merci beaucoup. Tout d'abord, merci aux organisateurs et organisatrices de m'avoir invité à participer à ce colloque. Dans cette communication, je voudrais proposer une certaine lecture du processus de politisation des associations islamiques au Mali, à partir des travaux d'Ernesto Laclau, comme le titre l'indique. Depuis une trentaine d'années environ, plusieurs auteurs analysent le développement des associations islamiques en Afrique de l'Ouest et plus généralement de ce qui est coutume d'appeler le processus de réislamisation en termes de contre-culture, pour reprendre l'expression de Christian Coulon qui l'utilisait en 1983, en termes d'alternative ou encore comme une forme de modernité parallèle à l'idéologie développementaliste portée par les États. Ce que je chercherai à montrer dans cette communication, c'est que, en les considérant dans leur relation non pas avec l'idéologie d'État, mais avec les partis politiques et des institutions comme l'Assemblée nationale, les associations islamiques vont former, à certains moments, une opposition politique. Et toutefois, la formation d'une telle opposition politique par les religieux, elle a un coût, celui d'une perte de signification religieuse. Alors, pour donner deux, trois petits éléments de contexte, le Mali, après 23 ans de régime à parti unique, le régime de Moussa Traoré de 68 à 90, le Mali a connu une période de transition démocratique mise en place en 1991. Et depuis, on estime environ à 130 le nombre de partis politiques qui ont été créés depuis cette date. Et depuis 2002, qui correspond à l'élection du président Amadou Toumani Touré, le régime a connu ce qu'il est coutume d'appeler un régime du consensus, dans lequel l'intégralité des partis politiques sont acquis à la majorité, à l'exception d'un seul, le SADI, qui signifie Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, qui se revendique de l'opposition. C'est un petit parti connecté à des milieux altermondialistes, mais qui ne parvient pas véritablement à fédérer une opposition et à mobiliser un grand nombre de militants. Donc, en gros, pendant plus de 10 ans, entre 2002 et 2012, il n'y a pas eu véritablement d'opposition politique élue et représentative. Toutefois, durant cette décennie, on a pu observer plusieurs moments où ce furent les acteurs religieux qui ont joué le rôle d'une opposition politique la plus efficace, de fait. Une opposition sans parti, étant donné que le Mali, c'est une république laïque, dans laquelle les partis confessionnels sont interdits par la Constitution. Et le moment le plus révélateur de cette formation d'une opposition politique, c'est l'année 2009, qui connut donc une contestation massive du projet de réforme du Code des personnes et de la famille. Ce projet de réforme du Code de la famille, il commence en 1999, à la suite de la participation du Mali à la plateforme de Pékin en 1995, et notamment à travers des associations militant pour le droit des femmes. Et ce nouveau projet, qui est porté par les députés, ce nouveau projet de code, il cherche à faire converger le droit national avec des normes internationales sur les droits des femmes. Et cette tentative, elle a donné lieu à plusieurs conflits entre plusieurs factions de la société civile jusqu'en 2009, année au cours de laquelle les députés votent le nouveau code. Et cette adoption du nouveau code, elle fait scandale auprès des religieux qui le jugent opposé aux valeurs islamiques et sociétales du Mali. Cette opposition hein, à la promulgation de ce code, elle est pilotée par un organe associatif qu'on appelle le Haut Conseil islamique du Mali, qui est l'instance de représentation des musulmans auprès de l'État. Et donc l'équipe dirigeante du Haut Conseil islamique, accompagnée d'autres associations influentes, va devenir l'une des principales forces de contestation dans ce qui est coutume d'appeler depuis l'affaire du Code de la Famille. Et ils vont notamment prononcer des fatwas à l'encontre de ce code. Ils vont organiser des marches de protestation, des manifestations, des meetings dans la plupart des stades de Bamako. Donc des meetings qui ont rassemblé jusqu'à 50 000 participants. Ce que, soit dit en passant, les dirigeants politiques de tous bords sont bien incapables de faire au Mali. Donc tout ça pour s'opposer publiquement à la promulgation de ce nouveau code. Et face à l'ampleur de la mobilisation, le président Amadou Toumani Touré va renvoyer le code en une seconde lecture, ce qui en soi est un acte anticonstitutionnel puisqu'une loi votée ne peut être envoyée. Et un nouveau texte va être élaboré en concertation avec les acteurs religieux et va être adopté 2 ans et demi plus tard par l'Assemblée nationale. Et donc le 14 janvier 2012, les leaders religieux de Bamako vont investir une nouvelle fois le grand stade de Bamako pour réclamer la ratification du nouveau texte, ce qui était une manière aussi de manifester la réussite de la mobilisation et de la contestation. Ce jour-là, il y a de nombreux cheikhs, on dit cheikh au Mali, on ne dit pas cher, de nombreux cheikhs influents et charismatiques se déplacent ce jour-là à Bamako pour s'associer à la victoire et marquer leur accord avec le nouveau texte. Donc cette affaire, elle a montré que les associations islamiques, elles ont généré quelque chose qui s'apparente à un espace de délibération et de contestation relative au projet de loi porté par l'Assemblée nationale. Elle a généré ce qu'on pourrait appeler, à la suite de Gilles Holder, un espace public religieux. Et elle a fait couler beaucoup d'encre, autant dans la presse que dans le milieu de la recherche, notamment en ce qui concerne la montée en puissance de la tendance wahhabite au Mali. Un mouvement présent au Mali depuis les années 40, mais particulièrement influent depuis le début des années 80, considéré comme rigoriste. Oui, pardon, il faut savoir que le Mali, c'est quand même environ à 90% musulman. En maniant ces chiffres avec prudence, bien sûr. Donc cette affaire du code de la famille, elle a été vue comme une islamisation du politique et même comme une wahhabisation du politique. Ce terme, on le retrouve par exemple dans des rapports du Sénat élaborés entre 2013 et 2016, où on parle dorénavant de wahhabisation. Elle a été vue comme une montée de l'islam politique, de l'islam radical, étant donné que le Haut Conseil islamique, qui pilotait, hein, je le rappelle, ces protestations, est considéré comme majoritairement de tendance wahhabite. Néanmoins, je voudrais proposer ici une autre lecture de ce processus, lecture selon laquelle cette politisation des associations islamiques, elle se fait justement au détriment des tendances doctrinales internes à l'islam. Cette analyse, elle est donc fondée sur les travaux d'Ernesto Laclau, qu'il développe dans son ouvrage « La raison populiste », publié en français en 2008. Et Laclau, il engage sa réflexion en interrogeant l'apparition des mouvements qu'on appelle populistes pour développer un modèle théorique qui, plus largement, cherche à identifier les conditions d'émergence d'un peuple. Un peuple entendu comme un acteur historique et non pas comme un donné sociologique. Alors l'objectif de cette lecture, ça ne sera pas d'en conclure au fait que les leaders religieux sont populistes, ni d'acter de l'existence effective et pérenne d'un peuple au Mali, mais en revanche, l'utilisation de ce modèle de Laclau, auquel je vais venir à présent, il offre des pistes intéressantes pour renouveler les manières de penser le rapport entre religieux et politique. Et pour des raisons d'économie de temps, j'emploierai ici, une fois n'est pas coutume, une grille de lecture déductive, en partant du modèle de Laclos pour venir l'exemplifier par la situation malienne. Alors, un premier élément de son analyse, c'est que les mouvements dits populistes, ils ont la particularité de rassembler des demandes sociales insatisfaites et hétérogènes. Ce qu'il entend par demande sociale, c'est de manière générale ce qui va être exprimé au pouvoir public, aux autorités, par un groupe d'individus qui se constitue à cette occasion lorsqu'ils partagent une même condition spécifique qu'ils souhaitent voir changer. Et en l'occurrence, au Mali, les acteurs religieux se chargent à bien des égards de répondre au quotidien à un grand nombre de demandes sociales insatisfaites, principalement, comme on a pu le voir dans d'autres communications, en termes d'éducation et de santé, hein, par la construction d'écoles, de médersas, de lycées, d'hôpitaux, de centres de soins. Donc, en termes d'éducation et de santé, et c'est ça qui génère souvent le discours selon lequel il remplace l'État dans ses fonctions sociales, rejoignant par là les théories de l'échec de l'État. Mais ils vont aussi répondre à des demandes en termes de protection sociale, d'emploi, d'accès au culte ou encore de développement. Ce qu'il faut signaler au passage, c'est l'historicité de cette prise en charge. Le processus n'a pas été celui automatique des vases communicants selon lequel moins il y aurait d'État, plus il y aurait de religieux. Depuis les années 80, et depuis les plans d'ajustement structurel qui ont été mis en place dans ces années-là, au Mali notamment, un grand nombre de tâches de médiation sociale ont été confiées aux acteurs religieux, aux associations islamiques, par les États, par les pouvoirs publics, concernant notamment les négociations avec les syndicats. Et pour reprendre l'expression d'un militant d'association islamique, les acteurs religieux, ils étaient devenus un peu une aspirine dans la main de l'État. Donc mis en avant par les pouvoirs publics pour atténuer la portée revendicatrice des conflits sociaux. Deuxième étape, si je puis dire, c'est que pour que ces demandes sociales insatisfaites puissent servir de socle à un mouvement commun, elles nécessitent d'être rassemblées, d'être mises en équivalence, selon les termes de Laclos, autour d'une référence commune, en l'occurrence la référence à l'islam, qui va rassembler, représenter l'ensemble de ces demandes. Cette mise en équivalence des demandes sociales, elle trouve des formulations particulièrement abouties dans les discours publics tenus par les, pour prendre que quelques exemples, tenus par les deux grandes figures du paysage religieux malien. Ces deux grandes figures, ce sont Mahmoud Diko, le président du Haut Conseil islamique du Mali, identifié comme wahhabite, et Chérif Ousmane Madani Haïdara, vice-président du Haut Conseil islamique, qui n'est pas du tout wahhabite, qui est le leader charismatique d'un mouvement qu'on peut qualifier de réformiste, qui s'appelle Ansar Dine, qui n'a rien à voir avec le Ansar Dine djihadiste. Et donc les deux se sont devenus notamment populaires à travers, pour Haïdara, ses discours d'inauguration du Mauloud, là aussi au Mali on dit Mauloud, hein, donc la célébration de la naissance et de la dation du nom du prophète. Et donc ça pour Haïdara, et pour Mahmoud Diko, à travers ses vœux, ses présentations de vœux pour les célébrations du Nouvel An. Par exemple, dans ses présentations de vœux du Nouvel An 2010, il va lister un grand nombre de préoccupations qui vont prendre la forme d'une liste de doléances, où il va mentionner successivement l'école, l'accès aux denrées de première nécessité, la vie chère, la sécurité ou encore la justice. Et cette mise en équivalence des demandes, elle est perceptible dans l'usage du renvoi à l'islam pour chacune d'entre elles. Certaines des demandes vont être des demandes largement partagées dans la population. 5 minutes déjà, je fais très vite alors. Des demandes partagées par un ensemble de groupes sociaux qui vont s'approprier en tant que demandes des religieux, et d'autres vont être des demandes spécifiquement des acteurs religieux, comme la fermeture des bars ou l'interdiction de la pornographie, qui sont des demandes, des préoccupations plus, qui concernent majoritairement les leaders religieux, mais qui vont être adressées comme des demandes sociales. Bref, une mise en équivalence des demandes, je passe sur d'autres exemples, excusez-moi. Troisième étape de ces logiques politiques à l'œuvre, selon Laclos, c'est un troisième élément fondamental, et c'est là où je veux en venir, de la dynamique des mouvements populistes, c'est qu'après que ces demandes sociales hétérogènes sont mises en équivalence, il faut que l'une d'entre elles en vienne à représentalité... en vienne à représenter la totalité d'entre elles. Il faut qu'il y ait une demande, un symbole qui symbolise l'ensemble. Et pour cela, selon Laclos, l'élément qui se chargera de représenter l'ensemble de ces demandes sociales devra se transformer, bon gré mal gré, en un signifiant vide. Il devra perdre sa signification particulière pour se référer au collectif. Il ne fera plus qu'incarner ce que Laclos appelle l'identité discursive du collectif. Et dans cet espace de contestation politique formé par les acteurs religieux, les références à l'islam, elles tendent à revêtir les fonctions d'un tel signifiant vide. Ils peuvent s'incarner tout d'abord dans des formules dont les acteurs religieux vont user à foison lors des meetings et des rassemblements. Par exemple, plusieurs associations islamiques ont fait le slogan « L'islam n'est pas politique ». Alors, l'islam n'est pas politique, c'est vraiment quelque chose qui est prononcé à foison, comme je disais, et qui, paradoxalement, évidemment, c'est un slogan qui est intensément mobilisateur, étant donné le sens émique, comme un peu partout, du terme politique fortement dévalué, associé aux pratiques corruptrices, au népotisme, etc. Politiki, hein, en bambara, la langue majoritairement parlée à Bamako, donc « slameya te politiki », c'est un slogan qu'on entend régulièrement, et qui va définir l'islam par ce qu'il n'est pas, par ce à quoi il s'oppose, et par là, qui va laisser à la charge de chaque fidèle ce que l'islam peut être. Donc un tel slogan va faire de l'islam insignifiant, vidé de son sens, et en même temps profondément fédérateur. Mais cette mise en signifiant vide, elle n'agit pas seulement au niveau des discours. Ce processus, il est particulièrement perceptible dans les moments d'alliance entre les leaders religieux. Je m'explique un peu, parce que sur le contexte du champ religieux malien, je ne suis pas rentré dans les détails, mais c'est un champ religieux assez diversifié entre différentes tendances, principalement des tendances soufies représentées par la Tidjania, par le mouvement Ansar Dine que j'évoquais tout à l'heure, un mouvement réformiste populaire, et par le wahhabisme, par également des tendances chiites. Donc un paysage diversifié, mais lors de moments d'alliance, comme le moment de contestation du code de la famille, chacune de ces tendances est nécessairement obligée de suspendre ses particularismes, de suspendre ses divergences et ses lignes de friction pour porter le message commun. Et ces moments d'alliance, donc, il y a une perte de sens, une perte de spécificité, une perte de marqueurs distinctifs de la part de chacune des tendances. Et elle est exprimée par beaucoup d'acteurs de ce milieu à travers la notion de musalaha. Okay. Musalaha, c'est un terme d'origine arabe qui se réfère en l'occurrence au droit musulman, mais qui va revêtir en langue bambara au Mali un éventail de significations qui peut vouloir dire compromis, compromission, hypocrisie, et qui va impliquer l'idée de renoncer à ses convictions en vue d'atteindre un objectif, d'aller au mieux de ses intérêts au détriment de ses principes. Et beaucoup d'acteurs religieux vont dire « Oui, entre nous, il y a la musalaha, on dit qu'on est d'accord, mais au final, une fois qu'on a fini la réunion, on va chacun faire nos trucs. Mais quand on se rassemble, il y a vraiment ce qui s'exprime dans leur discours, c'est cette perte de signification. Si vous voulez, un partage de la forme au détriment des contenus. Donc pour conclure, excusez-moi d'avoir dû être bref, du modèle de Laclos, on retrouve plusieurs logiques politiques à l'œuvre dans le champ politique malien. Ce qui ne m'amène pas à conclure, comme je disais, que l'islam au Mali est un mouvement populiste, ce qui est une affirmation de peu d'intérêt selon moi, mais en revanche, il y a des moments dans ce champ politique malien où les leaders religieux et les associations islamiques en particulier vont participer à la formation d'une opposition politique selon des logiques qui sont semblables à celles que l'on observe dans les mouvements populistes. La conséquence, c'est qu'à mesure qu'elle représente des demandes contradictoires et des opinions variées, tout en se plaçant dans une position d'opposition vis-à-vis des gouvernants, ces références à l'islam, elles vont perdre substantiellement leur capacité à symboliser un projet spécifiquement religieux, un projet ontologiquement islamique, même on pourrait dire, qui serait porteur en toute situation d'un corpus stabilisé de principes doctrinaux. Et donc, ces références vont privilégier ce qu'on pourrait voir comme un langage hégémonique au détriment d'un contenu de programme politique. Alors, bien sûr, une telle analyse n'a pas vocation à être répliquée à tous les contextes politiques et partisans des pays musulmans. Elle fonctionne pour le Mali. Néanmoins, l'apport de Laclau à la description des processus de politisation des acteurs religieux offre, selon moi, de nouveaux outils pour penser ce rapport entre religion et politique, qui, loin d'être consubstantiels dans l'islam, restent de l'ordre de la contingence historique. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation qui, me semble-t-il, valorise l'attention que l'on peut être appelé à prêter au dispositif de l'énonciation religieuse ou dispositif d'énonciation religieuse dans l'espace politique, à leurs effets pragmatiques, et notamment qui souligne, me semble-t-il, la vulnérabilité, en quelque sorte, de l'autorité religieuse aux propres logiques référentielles et aux propres assemblages qu'elle peut mettre en œuvre à des fins politiques.